Bonjour, 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 bienvenue sur le podcast Si votre talent porte nouveau rendez-vous hebdomadaire d'informations et de partage d'expériences sur les sujets provenant de la vie active et professionnelle. Je suis Landry, je suis toujours avec Franck. Nous sommes toujours avec notre invité de la semaine dernière, Ina Ouattara, notre experte en ressources humaines et en orientation.
Et pour rebondir justement sur les métiers d'ingénierie, donc les métiers d'ingénieur, je peux citer par exemple ingénieur télécom, ingénieur électrotechnique. Je pense que tout à l'heure, tu avais dit que, par exemple, la filière électrotechnique était une filière aussi qui était demandée, qui avait de beaux débouchés. Et on a des auditeurs qui nous posent la question de savoir comment faire pour devenir soit ingénieur télécom. Et il y en a aussi un autre qui souhaitait se rassurer si le métier d'ingénieur électrotechnique était toujours en vogue. Voilà.
OK. Alors, déjà, pour être ingénieur... ingénieur télécom, en fait, de manière générale, pour être ingénieur, la voie royale, on va dire, c'est de faire une classe préparatoire donc qui dure 2 ans, enfin, des classes préparatoires, du coup, qui durent 2 ans. Et puis après, il y a une sorte de concours, en tout cas avec les notes, pour accéder au cycle ingénieur. Donc, le cycle ingénieur, ça dure 3 ans. Et c'est là que, justement, on va choisir la spécialisation télécommunication et réseau, si on veut devenir ingénieur télécom. Ça s'appelle comme ça en général. Après, il faut voir au niveau des différents établissements. En Côte d'Ivoire, c'est ingénieur télécommunication et réseau, c'est le nom. Après, si on a l'opportunité d'aller à l'étranger, par exemple, si on va en France, on peut passer par un DUT ou une licence en mathématiques et ensuite passer un concours pour entrer en école de commerce.
École d'ingénieur ?
Oh pardon, merci. Et ensuite passer un concours pour entrer en école d'ingénieur. Donc voilà, grosso modo, enfin la voie. Donc 2 ans de classe préparatoire et ensuite on intègre une école d'ingénieur qui dure 3 ans. Donc ça fait les 5 ans.
Voilà. D'accord.
Et dans certains pays, il y a des formules alternatives, comme j'ai dit, avec un DUT, donc c'est 2 ans, une licence professionnelle dans, bien sûr, une matière qui a trait à l'ingénierie, hein, donc comme j'ai dit, les mathématiques, les physiques, etc., la chimie, etc., et après, intégrer une école d'ingénieur comme ça.
OK.
Wow. Après, pour la question ingénieur électrotechnique, est-ce que c'est en vogue? Par rapport à ce que j'ai dit avant, en fait, en vogue, ça veut dire, c'est un superlatif, en fait. Je dirais plutôt que c'est un métier qui a des débouchés, voilà, qui en offre. Voilà. Effectivement, on cherche des spécialistes, des gens qui maîtrisent les applications de l'électricité. Donc, allez-y, quoi. Il n'y en a pas des millions, en fait. Donc, c'est peut-être le moment d'y aller, en fait.
Super. Peut-être que je peux peut-être ajouter pour les auditeurs qu'en Côte d'Ivoire, pour la filière télécom et réseau, bon, je fais un peu de publicité. On a l'INPHB, le Yamsoko, qui offre un cycle long, qui commence par les classes préparatoires technologiques et après la filière STIC qui donne aussi la possibilité de rentrer dans le cycle ingénieur en télécom. On a aussi l'ESATIC qui est à Abidjan et qui est une école qui a été ouverte et qui est pilotée, on peut dire, par le ministère je ne me rappelle plus exactement la formulation actuelle. Je crois que c'est le ministère de l'économie numérique et des postes. Voilà, juste un petit complément.
Ok, effectivement. Et d'ailleurs, ces établissements, bah, vous les trouverez sur eduquia.com. Je dis ça, je ne dis rien, mais vous avez les informations et les formations qui sont proposées.
Si, il faut le préciser, c'est bien eduquia.com. www.eduquia.com.
Exactement.
Exactement. Ok, c'est très clair. Nous allons partir sur eduquia.com pour avoir plus d'informations. J'ai une question qui est assez intéressante. Je pense que hors antenne, je parlais un peu de ça avec toi, Ina. Est-il possible de devenir manager en ayant un profil électrotechnicien?
Alors, en fait, dans quasiment la plupart des métiers, il est possible de devenir manager. Après, c'est est-ce qu'on a envie de devenir manager déjà? Mais si la personne le pose, je suppose que oui. Maintenant, le fait est que ça s'acquiert avec de l'expérience. Donc, devenir manager, soit effectivement, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, donc Bac plus 5, et on cherche tellement, enfin, on a tellement besoin de quelqu'un pour manager des équipes qu'on me prend directement. Mais du coup, ça va être aussi un challenge pour moi parce qu'il va falloir que je démontre des capacités managériales en même temps que je prends mon poste. Soit, on est d'abord technicien Et puis après, on évolue vers une fonction managériale au bout de quelques années parce qu'on a su démontrer qu'on pouvait s'occuper de projets, de personnes aussi, et les guider dans l'atteinte des objectifs. Voilà. Donc, dans ce cas-là, le manager, on peut l'appeler chef d'équipe aussi. Chef d'équipe électrotechnicien. Voilà.
Ok. C'est clair. C'est clair. Je pense qu'on a même un profil, un aîné avec qui qu'on a conduit à l'ILP, qui est sorti du cycle ingénieur électrotechnicien, mais qui aujourd'hui est directeur à la compagnie d'électricité en Côte d'Ivoire. Donc, c'est juste pour dire aux éditeurs que le titre manager n'est pas forcément attaché à un secteur d'activité bien précis. Manager, comme Ina l'a dit, c'est bien défini. Manager, c'est chef d'équipe, chef de département. Donc, voilà.
Et il faut aussi dire, parce que je sais que ça, c'est des fois, c'est un peu une vue de l'esprit. Mais quand on débute, alors, comme j'ai dit, quand l'entreprise a vraiment un gros besoin, là, vous allez devenir directement manager. Parce que, mais comme j'ai dit aussi, c'est très challengeant, surtout quand tu finis tes études. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, on va être assistant, par exemple, chef de projet ou assistante responsable marketing. Et après quelques années d'expérience ou en changeant d'entreprise, là, on peut arriver au rôle de responsable ou de manager. Ce n'est pas automatique, en fait.
C'est pas automatique.
Même après son bac plus 5, hein, ce n'est pas automatique.
C'est pas automatique. Oui, en fait, ça vient avec beaucoup d'expérience. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que dans des postures de management, ça vient avec beaucoup de politique, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a beaucoup de gestion des humains, savoir comment prendre les gens et tout. Donc, ce sont les choses plus ou moins qu'on n'apprend pas sur le coup comme ça. On ne sort pas de l'école avec ça. C'est au fur et à mesure qu'on comprend, qu'on arrive à tisser sa toile, au fur et à mesure qu'on arrive à avoir ces galons-là.
C'est ça.
Ah oui, je pense que ça, c'est intéressant de le préciser hein, parce que des fois, on a tendance à se charrier un peu sur les bancs et entre filière technique, filière commerciale. Exactement. Alors qu'au début, tout le monde est quasiment au même niveau et c'est progressivement que chacun fait sa carapace et puis son chemin professionnel. Donc, Ina, je pense que tu as sûrement remarqué en Côte d'Ivoire les BACA, les Woro Woro, les taxis compteurs, les embouteillages, les bus, les bus. Je pense qu'il y a un auditeur qui a regardé un peu tout ça et qui se pose la question de savoir est-ce que, d'abord, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses du domaine du transport en Côte d'Ivoire? Et est-ce qu'il y aurait des débouchés en termes de métier et d'insertion, en termes d'insertion professionnelle?
Alors, oui. En fait, en ce moment, en tout cas, le marché en tout cas est demandeur parce qu'on cherche, je pense, des postes de responsables. Responsable supply chain, achat et logistique, bon, c'est à peu près la même chose. En tout cas, des gens qui vont gérer des projets un peu macro. Donc, mais bon, en même temps, pour arriver à ça, comme on a dit, il faut commencer par exemple, assistant logistique, coordinateur logistique. Donc, voilà les types. Enfin, je viens de citer quelques métiers qui sont en recherche de profils. Donc, je ne pense pas directement justement au BACA et au moyen de transport que tu as cité, mais plus à ces formations-là qui vont demander un BAC plus 2 ou un BAC plus 3 et beaucoup plus. Notamment, on a parlé de l'INPHB. Il y a un master, enfin master, un diplôme d'ingénieur en logistique à l'INPHB. Donc, ça montre bien que et je pense que de toute façon, on a besoin de ces professionnels-là. Peut-être qu'il n'y en a pas assez, même à mon avis. Après, si on revient au bac plus 2, on a plus des gestionnaires de stock. Du personnel aussi au niveau de la douane. Parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui mettent la douane, bon, pour des raisons financières, je pense. C'est à ça qu'ils pensent quand ils mettent ça, comme métier qui les intéresse. Mais on a besoin de professionnels pour la douane. Pour le transport, notamment maritime, parce que par exemple, en Côte d'Ivoire, on a une école de la marine qui va permettre voilà, de se spécialiser. Enfin, on peut être officier, hein, mais on peut aussi choisir de travailler dans le transport maritime. Comme cité tantôt aussi, la conduite d'engins portuaires. Donc, il y a des centres de formation locaux au niveau des ports mis en place par une grande multinationale, en tout cas, qu'on connaît quasiment tous en Afrique, qui vont permettre de se spécialiser dans les métiers liés à l'activité portuaire. Bon, on a cette chance-là en Côte d'Ivoire hein, d'avoir, et dans les pays de la sous-région, de la région, d'avoir accès à la mer. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faut pas hésiter à y aller parce qu'on recherche du personnel.
D'accord.
C'est ouais. Clair. Ça, c'est une question vraiment sous forme de cas d'étude posée par un auditeur. Il le dit. Au cours de sa carrière professionnelle, on peut être amené à vouloir changer de domaine d'activité. Est-ce que pour quelqu'un qui a assez d'expérience et qui vise un poste de manager, on revient encore avec cette définition, bon, on va revenir avec la définition du manager après, qui vise un poste de manager, vous conseillerez d'arrêter le boulot pour poursuivre un master? Faut-il forcément le faire en présentiel ou essayer de le faire en ligne? Donc, il te demande quel est ton avis sur cette question.
Donc, si je reformule la question, c'est de savoir, j'ai déjà été dans le monde professionnel et je veux devenir manager. Est-ce que je dois faire un hiatus, enfin faire une pause, on va dire, pour me former ou bien, c'est ça?
Exactement. Faire une pause, aller se former, aller faire un master. Et lorsque je décide même d'aller à l'école, je décide d'aller faire un master, quel est le choix que je dois faire en présentiel, en ligne?
D'accord. Plutôt.
Le premier point, c'est est-ce que si je veux devenir manager, je dois, je dois mettre une pause à mon expérience professionnelle et aller me former pour faire un master. Le deuxième point, si jamais je décide de faire la pause et aller me former, c'est dois-je choisir une formation en présentiel ou en ligne?
Ok. Dans un premier temps, en fait, pour devenir manager de manière générale, ce qu'on remarque, c'est que j'acquiers de l'expérience professionnelle et soit dans la même entreprise, tout se passe bien et on me promeut. Et je démontre aussi que j'ai envie d'être promu. Hein, donc, c'est vraiment très actif dans son propre développement et pas juste faire ce qu'on a à faire et ne rien faire d'autre. C'est aller au-delà, aller chercher. Comme tu as dit, il y a le côté politique. Je veux devenir manager, donc je vais me renseigner, je vais aller parler aux personnes influentes. Voilà, je vais construire un réseau en fait. Ou bien je vais dans une autre entreprise, c'est-à-dire que j'ai fait quelques années dans une entreprise, je vois que bon, les possibilités d'évolution, c'est pas comme je veux, c'est-à-dire je peux pas devenir manager comme ça, donc je décide d'aller ailleurs et c'est quand je vais ailleurs, je me fais embaucher par l'autre entreprise que je peux, à la négociation, dire bon, moi je viens en tant que manager, voilà. Donc ça, c'est ce qui est possible. Après, si, je pense que c'est plus si j'ai fait un diplôme, par exemple, Bac plus 2, Bac plus 3, pas forcément Bac plus 5, hein, et que je veux accélérer, on va dire, ma carrière, là, je vais repartir sur les bancs et ajouter un diplôme de master qui, normalement, ou un master spécialisé qui, normalement, pourrait me permettre d'accéder au rôle de manager. Parce que moi, je pense que davantage que le fait d'avoir un diplôme, c'est vous, comment vous vous défendez, en fait, dans le monde du travail. Parce qu'on doit vous voir comme un chef, un chef. Et vous devez vraiment démontrer que vous avez envie de faire carrière pour qu'on vous nomme manager. Voilà. Maintenant, pour la deuxième partie de la question, pour tout ce qui est-ce que présentiel ou à distance? Personnellement, et là, je vais répondre personnellement, je préfère avoir un mix des deux. Alors, la formation tout en distanciel, j'avoue que le Covid n'a pas aidé et que du coup, c'est devenu la norme pour beaucoup d'élèves, même de première année. Je trouve que c'est bien jusqu'à un certain point, notamment pour les aptitudes managériales, parce que pour moi, on parle de quelque chose où je dois avoir eu des simulations, des cas pratiques, et des applications quelque part, que ce soit avec les collègues de classe ou le professeur, on va dire ça comme ça. Donc, ce serait bien, si je veux devenir manager, d'aller dans quelque chose où il y a un mix des deux. Si je ne peux pas avoir le présentiel 100%, d'aller avec les deux modes, donc présentiel et à distance, pour pratiquer ce qu'on apprend théoriquement. Voilà. Et puis, bon, après, ça, c'est... Là, je pense avoir répondu à la question, en tout cas, concernant le côté physique de la formation. Mais après, bien sûr, ce qui est le plus important, en vrai, c'est la reconnaissance du diplôme que je vais passer. Est-ce que j'ai des exemples qui prouvent que, après ce diplôme, il y a des gens qui sont devenus managers? Comment est-ce que je fais pour voir ça? En fait, on a LinkedIn, hein, clairement. Donc, on peut voir ceux qui ont suivi cette formation-là, ce certificat-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Est-ce qu'ils sont restés pareils ou ils n'ont rien eu? Voilà. Et est-ce que justement la formation elle a des accréditations, des labels, que ce soit ACAMES et autres là, et même les labels internationaux dans certains pays? Et le contenu, qu'est-ce qu'on va me raconter pendant cette formation? Donc tout ça, j'ai le droit de demander à l'école ou l'établissement pour avoir ces informations-là. Et c'est ça qui va déterminer quelque part la qualité de l'enseignement.
Très bien. Donc ça veut dire qu'en priori, tu n'es pas contre spécialement, tu n'es pas contre les formations en ligne. Hein,
pas parce du qu'il tout, y a non, des... pas contre.
D'accord. Ok. Et dans la continuité, un auditeur voudrait savoir, est-ce que c'est possible de passer d'un métier technique à un métier commercial? Et est-ce que pour le faire, il faut absolument avoir un nouveau diplôme ou une nouvelle formation? Et le deuxième volet de la question, c'est de savoir, disons le troisième volet même, c'est de savoir est-ce que l'inverse est possible, c'est-à-dire passer d'un métier commercial à un métier technique.
Alors, parce qu'on l'a évoqué précédemment, je peux y répondre en disant que, en fait, passer alors, du technique au commercial, à mon avis, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Pourquoi? Parce que pour moi, si tu évolues vers quelque chose de commercial, c'est que de base, tu démontres les aptitudes dans tout ce qui est vente, négociation. Disons que tu as la tchatche, quoi. Tu as la bosse du commerce. Mmh. Donc, tu peux, je vais donner un exemple, tu peux être ingénieur, ingénieur chimiste ou chimiste, et puis après, t'orienter dans la partie un peu ingénieur d'affaires pour des produits. Alors, quand je dis chimie, c'est par rapport peut-être aux médicaments. Voilà. Donc, tu vas être ingénieur d'affaires ou comme j'ai dit, account manager pour une entreprise dans le secteur pharmaceutique ou de vente de médicaments. Il n'y a pas de souci dans ce sens-là parce que tu maîtrises déjà le produit, tu le comprends. En tout cas, tu comprends ses molécules, ses procédés. Donc, tu peux en parler. Maintenant, tu peux en parler comment? C'est avoir, comme j'ai dit, le côté tchatch pour en parler, le côté argument, marketing. Donc ça vient si tu l'as. Donc, tu n'es pas obligé de faire une formation dans ce sens-là. Si tu veux, pour te rassurer, tu peux faire une petite formation de gestion, enfin de technique commerciale, de commercialisation, juste pour être sûr que, voilà. Maintenant, par contre, dans le sens inverse, là, c'est compliqué parce que j'ai fait commercial et je veux devenir, comme j'ai dit, ingénieur chimiste. C'est un peu plus compliqué. Il faut, pour ça, pour en tout cas qu'une entreprise te fasse confiance, il faut que tu aies une formation technique. Donc, que toi, tu fasses un DUT, donc tu reprends quasiment tes études, ou bien que tu décides d'aller faire un cycle ingénieur. Donc, j'avoue, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut pas reprendre même des cycles entiers, en fait.
Ah, là, c'est vraiment très clair. Okay.
Dans la même veine, on a une autre question. Je pense que cette question-là, tu vas beaucoup l'apprécier. C'est, est-il possible de passer de la finance aux ressources humaines? Est-ce que tu peux donner aussi un cas pratique?
Alors, je ne suis pas sûre que j'aurai un cas pratique. J'ai plutôt des suggestions. Alors là, on est en train de parler de quelque chose qui quand même ressemble un peu beaucoup à de la reconversion. Donc, on est en Afrique hein, et le fait est que pour l'instant, malheureusement, on n'a pas vraiment de dispositif pour accompagner. Quand je dis accompagner, je parle de financièrement, mais même psychologiquement, des reconversions. Bon, après, vous pouvez faire appel à des coachs ou des conseillers pour vous aider là-dedans. Voilà. Mais sinon, quand on est face à soi, ce qui va permettre de faire cette transition-là, je pense que de premier abord, c'est le réseau. Le réseau, parce que vous connaissez quelqu'un ou des personnes, vous en parlez, et eux, ils vont voir, ah, est-ce qu'il y a une opportunité, en tout cas, où est-ce qu'on peut le tester sur quelque chose pendant un certain temps. Après, dans ce cas-là, moi, je pense aussi que vous devez faire votre propre formation. Donc, il y a des formations en ligne, il y a des choses qui vont, des livres, voilà. Il faut soi-même aussi se documenter pour montrer que vraiment, j'ai envie de faire attention aux ressources humaines, ça m'intéresse. Voilà. Après, ne pas hésiter aussi, si on peut, et si on a financièrement la capacité de demander à être, un peu, si je peux appeler ça comme ça, bénévole, pour tester l'activité, par exemple, 2 mois. Bon, j'observe, je shadow, je fais des fiches de paye, ou bien je fais j'essaie de trouver un lien, parce que la finance, ressources humaines, peut-être que dans la paye, ça peut passer. Je cherche une porte d'entrée, en fait. Peut-être aussi pour tout ce qui est rémunération, ça peut passer. parce que ben, finance, ça veut dire que les tableaux Excel, ça ne vous fait pas peur. Et dans les ressources humaines, ça peut s'appliquer justement à tout ce qui est rémunération, avantages sociaux, paye, comme j'ai dit, effectifs. On a besoin d'avoir les effectifs à jour, surtout dans les grandes entreprises. Donc, peut-être dans votre CV, mettre en avant plus ce côté chiffres, ce côté ou des choses qui ont trait au calcul dans les ressources humaines, que la plupart d'ailleurs des spécialisés en ressources humaines fuient. En général, quand les gens font ressources humaines, ils préfèrent faire bon, soit du recrutement, soit du développement des ressources humaines. Donc, pas les sujets axés chiffres. Donc, vous, ça peut être quelque chose qui joue en votre faveur pour amorcer cette transition. Et le premier aussi, enfin, on en avait parlé d'ailleurs, c'est le côté mobilité. Donc, si vous avez la chance que vous êtes dans un grand groupe, ben, il peut y avoir un job en ressources humaines et vous pouvez en faire part à ben, la RH pour qu'elle puisse vous permettre de tester l'activité pendant un certain temps et puis après de poursuivre la mobilité si c'est concluant. Voilà. Et puis, bon, bien sûr, bon, ça, c'est pas la première chose qu'on a envie de faire, hein, mais c'est le côté formation. Donc, ça peut demander de justement faire un master 2 en ressources humaines. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait. Parce que quand j'ai fini mon cycle commerce international, je me suis dit, ah ben non, j'en veux plus. Enfin, en tout cas, je veux être dans les ressources humaines. Pour légitimer la chose, j'ai ajouté un master 2, donc un an en ressources humaines.
La réponse est claire. Puis ça me fait penser un peu au fait que lorsque tu veux peut-être transitionner ou bien faire une reconversion, c'est de regarder les compétences que tu as dans ton domaine actuellement. Quelles sont les compétences qui pourraient être bénéfiques dans le domaine où tu veux te reconvertir, dans lequel tu veux te reconvertir. Quand c'est comme ça facilite. Ina l'a bien illustré en parlant de peut-être si tu es dans la finance, ça veut dire que les tableaux Excel, ça te fait pas peur. Donc par contre, si tu dois te reconvertir en ressources humaines, tu peux facilement te retrouver au niveau de la paix, par exemple.
Exactement.
Quels sont vos conseils pour celles et ceux qui ont fait des choix de filière mais qui n'arrivent pas à s'insérer? Ça, c'est la première question. Le deuxième volet de la question, souvent il y a des personnes qui ont des doctorats qui restent sur le carreau des années. Quels conseils pouvez-vous leur donner?
Alors, on va prendre du point de vue du doctorat en sachant que finalement c'est un peu pareil pour les personnes aussi qui ont fait une spécialité dans laquelle il est compliqué de s'insérer. Déjà pour tout ce qui est doctorat, ce qu'on peut considérer, c'est déjà une insertion dans le privé. Peut-être qu'on n'y a pas forcément pensé, parce que de prime abord, ce qu'on connaît, c'est la recherche ou l'enseignement après le doctorat. Mais dans son domaine d'études, peut-être qu'il y a moyen, j'ai fait un doctorat en économie, ce n'est pas déconnant que je puisse postuler auprès d'une banque ou d'une assurance pour trouver un travail. Donc bon, c'est là où quelque part, ça va rejoindre un peu la personne qui a fait Bac plus 5 ou 6. Mais alors que le doctorat, c'est pas plus vite, mais c'est le moyen aussi de trouver, d'être embauché. Voilà. Et on peut faire des études justement dans ces entreprises-là, qui sont privées et puis bon, qui nous permettent de nous en sortir en fait aussi. Après, je peux décider, bon, ça c'est vraiment à contre-courant, mais de me lancer dans une activité commerciale parce qu'il n'y a pas que les études, peut-être que j'ai envie d'entreprendre quelque chose ou bien. Commercial ou de conseil ou d'études. Donc, si j'ai un doctorat, ça veut dire que je suis quelqu'un qui a une très forte capacité d'analyse et qui est capable de, à titre indépendant, par exemple, de mener des études en tant qu'économiste. D'ailleurs, j'en interview un sur Edukia qui s'est lancé à son compte. Et ces services-là, je peux les vendre à des banques, à des assurances. Là, je parle en termes d'économie, hein, qui, justement, ont besoin de quelqu'un qui est capable de structurer un travail de recherche sur certains sujets. Donc, c'est pareil pour des ONG, des organismes internationaux qui ont besoin des compétences qu'on a. Et pour revenir à la voie, on va dire, à laquelle on pense le plus, c'est la recherche ou l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose, je peux continuer d'évoluer en tant que professeur à l'école ou bien, à l'école ou à l'université, ou bien pousser mes travaux de recherche plus loin. Dans le sujet que j'ai choisi. Voilà. Maintenant, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à s'insérer depuis un bout de temps, déjà, il faut se poser la question de est-ce que mon CV, ma lettre de motivation et ma candidature, de manière globale, est pertinente? Parce que quand on n'arrive pas à s'insérer depuis longtemps et qu'on n'a pas fait un diplôme qui nous recadre dès le début, c'est peut-être parce que on n'est pas prêt pour le monde professionnel. Et ça, on ne peut pas blâmer quelqu'un parce que effectivement le système ne dispense pas forcément de formation de technique de recherche d'emploi. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment je cherche un travail, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi l'étape 1? C'est quoi la 2? C'est quoi la 3? Ce que je pourrais recommander, c'est déjà, si on ne sait pas faire son CV ni sa lettre de motivation, qu'est-ce qu'on met en avant et son projet professionnel, c'est d'aller sur la chaîne YouTube de Edukia, parce que dessus, il y a une formation de 1h30 au moins avec deux autres exemples. Sur comment faire son CV, sa lettre de motivation, quels sont les éléments importants que le recruteur attend et les erreurs à ne pas commettre pour que, en tout cas, son CV et sa lettre puissent se démarquer. Voilà, ça, c'est plus pour la partie « je n'arrive pas à m'insérer malgré peut-être plusieurs années de recherche ou le fait que ce soit compliqué ». Enfin, dernier conseil, ça peut aussi être de suivre une formation. C'est pour ça que la question de quels sont les métiers qui recrutent en ce moment peut être intéressante, parce que quand on ne trouve pas dans une voie, l'idée, c'est pas de rester bloqué là éternellement. C'est aussi de se dire à un moment, faut vivre, hein, et donc de choisir de bifurquer vers un secteur proche qui, lui, recherche, ou bien toute autre chose qui va nous permettre, c'est là où je reviens à l'orientation, d'utiliser ses traits de personnalité, ses centres d'intérêt et ce dans quoi on peut être doué.
On a pris un réel plaisir à parcourir ces questions avec toi, mais on ne peut pas te laisser partir sans te demander ton mot de fin et quelques petits conseils pour tes jeunes frères qui vont bientôt passer le bac et aussi pour ceux qui sont déjà dans la vie professionnelle ou même qui sont déjà dans la vie supérieure universitaire.
Alors déjà, bon courage à ceux qui vont passer des examens, parce qu'on sait ce que c'est. Et puis aussi, en fait, le temps que vous allez prendre pour vous-même, pour faire les introspections de tout ce qui a trait à l'orientation, donc ce pourquoi moi je donne plein de clés, c'est du temps qui est nécessaire et qui de toute façon va vous rattraper quelque part. Parce que la génération actuelle, on est amené à changer plusieurs fois de métier, celle d'après encore plus. Donc, l'idée, c'est que quand je me connais et quand je sais qui je suis, en tout cas, j'ai des grandes lignes et que j'ai mon fil conducteur, je peux être flexible et puis m'adapter, quelle que soit la situation. Mais il faut prendre ce temps-là, que ce soit vous-même, avec votre entourage ou avec un professionnel, pour comprendre ce que vous aimez vraiment, ce pourquoi vous avez envie de vous lever le matin, ce sur quoi vous avez envie d'apprendre, ce pourquoi vous êtes doué naturellement, parce que oui, on a tous des dons, mais encore faut-il les trouver. Et puis, le mettre en cohérence avec ce que le marché du travail attend, ou ce que moi-même, en tant qu'entrepreneur, je peux développer. Voilà, donc ce serait ça mon gros mot de la fin, mon grand mot de la fin, c'est connaissez-vous bien pour bien choisir. Et puis après, vous allez voir que tout va aller comme sur des roulettes.
Super, super. Merci bien, Ina. Merci pour ton temps. Merci pour toutes ces informations que tu as pu partager avec nous et nos auditeurs. Et n'oubliez pas, vous pouvez partir avoir beaucoup plus d'informations sur la chaîne YouTube de Edukia et aussi partir avoir beaucoup plus d'informations sur edukia.com.
C'est ça, exactement.
C'est OK. Merci beaucoup.
Merci à vous. C'est plus un plaisir.
Merci. Bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode aussi palpitant que celui-ci. Ciao.
Ciao.